Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Avec ce dimanche, le temps après la Pentecôte se termine. C'est la fin de l'année liturgique. Et c'est l'image du monde qui lui aussi va finir un jour. La figure du monde passe, dit saint Paul. Et tout marche vers le grand jour de la parousie, c'est-à-dire de l'avènement de notre Seigneur et du jugement dernier. Et c'est cela que la liturgie propose aujourd'hui à notre méditation dans l'Évangile. Dieu s'est réservé la connaissance de ce grand jour. Nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Il est donc tout à fait vain de se livrer à des supputations stériles. Mais Dieu veut qu'on s'y prépare et qu'on tienne dans, dans une continuelle attente de sa venue lorsqu'il viendra, lorsque notre Seigneur reviendra, juger solennellement les vivants et les morts. Et c'est pourquoi la Sainte Écriture nous dévoile un certain nombre de vérités au sujet de la parousie. Alors tâchons ce matin, si vous le voulez bien, très brièvement, d'en examiner quelques-unes, en nous aidant d'une étude que le Père Emmanuel a rédigée en 1885 sous le titre évocateur « Le drame de la fin des temps ». Tout d'abord, il faut souligner ce fait que l'Église, devant être en tout semblable à notre Seigneur, doit subir, avant la consommation du monde, une épreuve suprême qui sera une vraie passion. Les détails de cette passion, dans lesquels l'Église, humiliée comme éclipsée, fera voir l'immensité de son amour pour son divin époux et aussi, finalement, fera éclater sa propre divinité, tous ces détails se trouvent consignés dans les livres inspirés de la Sainte Écriture, notamment dans les prophètes Daniel, dont il a été question dans l'Évangile d'aujourd'hui, Ézéchiel, dans l'Évangile, dans saint Paul, tout spécialement ses deux épîtres aux Thessaloniciens, et dans l'Apocalypse. Tous ces textes, spécialement ceux du Nouveau Testament, rappellent le caractère inopiné du dernier avènement de la parousie, l'apparition de faux prophètes, les débordements du péché, l'apostasie des masses et enfin la résurrection générale. Cette épreuve est-elle déjà celle que l'Église connaît actuellement? Peut-être, peut-être pas. À la limite, peu importe. Le plus important, c'est pas tellement de s'attarder à savoir si nous sommes rendus ou non dans ces événements. Le plus important, c'est d'en comprendre le sens. Car, comme le dit le Père Emmanuel, de ce spectacle sort une lumière qui nous fait apparaître l'histoire entière sous son vrai jour. Quel est ce jour? Eh bien, c'est qu'à la surface de l'histoire, l'œil saisit des bouleversements, bouleversements de nations, des civilisations qui se font, qui se défont, les hommes qui s'agitent sur la terre, mais tous ces hommes sont menés par des puissances qui ne sont pas de la terre. Et c'est ça qu'il faut comprendre. En dessous de cette surface des choses, la foi, elle, nous fait suivre le grand antagonisme entre Satan et notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la clé de l'histoire. La foi nous fait assister aux ruses et aux violences que l'esprit démoniaque déploie pour entrer dans la maison de laquelle notre Seigneur l'a expulsé. C'est ce que dit l'Évangile, notre Seigneur explique ça. Et à la fin, lors de cette passion ultime de l'Église, de fait, Satan rentrera en quelque sorte dans l'Église et voudra éliminer notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cela, cette passion de l'Église. Et à cette heure, le caractère humain, politique des agitations humaines s'effacera complètement devant le vrai drame qui, en fait, est exclusivement religieux. Le voile se déchirera, les apparences tomberont. Pour tous, il sera clair que la lutte, c'est la lutte de l'enfer et du surnaturel. C'est cela la vraie lutte, lutte qui s'achèvera par le triomphe de notre Seigneur et de l'Église, et ça sera la conclusion de toute l'histoire de l'Église et du genre humain. Voilà le vrai sens de tous ces événements. et c'est cela qu'il faut bien garder présent dans l'esprit. D'autre part, toutes les prophéties de l'Écriture qui annoncent en termes plus ou moins voilés ces épreuves ultimes ont pour but de fortifier l'âme des croyants. Et cela, c'est très important de le comprendre aussi pour nous. Les séductions et les persécutions qui viendront assaillir les fidèles, ayant été prédites, formeront alors autant d'arguments en faveur de leur foi combattue. Notre Seigneur nous a prévenus pour que nous ne soyons pas surpris. Et du coup, notre foi s'affermira lors de ces événements, précisément par ce qui devait la détruire. Étant bien convaincus, ayant bien compris, nous ne devons pas nous laisser surprendre. Et puis, nous avons nous-mêmes de grands fruits à tirer de la considération de ces événements redoutables, quelle que soit leur échéance ou leur imminence. C'est ce que notre Seigneur dit à la fin de l'évangile d'aujourd'hui. Écoutez une comparaison prise du figuier. Dès que ses rameaux deviennent tendres et qu'il pousse ses feuilles, vous savez que l'été est proche. Alors, lorsque vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Et ailleurs, dans le même contexte, notre Seigneur dit encore, veillez donc et priez pour ne pas être surpris. Veillez et priez pour ne pas être surpris. C'est ça la grande leçon. Saint Grégoire le Grand la commente ainsi, vous savez que dès maintenant la séduction agit sur les âmes, que le mystère d'iniquité fait son œuvre, et on peut dire que ce mystère d'iniquité fait son œuvre tout au cours de l'histoire, depuis l'ascension de notre Seigneur, les choses ont commencé. Vous savez donc que le mystère d'iniquité fait son œuvre, que la foi est réputée un opprobre, veillez et priez pour conserver la foi. Voilà la grande leçon. En même temps, il faut bien se souvenir que si cette épreuve doit être redoutable, si le mal doit se déchaîner, nous savons aussi qu'il restera contenu par la main de Dieu. L'Église, comme notre Seigneur, sera livrée sans défense aux bourreaux qui la crucifieront dans tous ses membres, mais il ne sera pas permis à Satan de lui briser les os. Les os de l'Église, ce sont ses élus. Pas plus qu'à notre Seigneur étendu sur la croix, il n'a été possible au bourreau de lui briser les os. En d'autres termes, cela veut dire que l'épreuve sera limitée, abrégée à cause des élus. Nous venons de l'entendre dans l'Évangile. Et les élus, ceux qui seront sauvés, ce sont les vrais humbles. L'épreuve se terminera par un triomphe inouï de l'Église. C'est de foi. Et c'est pourquoi Saint Luc présente cette heure dans le récit qu'il fait de ces événements, comme une heure pleine d'espérance. Il termine son récit par ces mots, « Mais plutôt, levez vos têtes vers le ciel, car l'heure de la rédemption est proche, car les premières lueurs de l'aube blanchissent déjà la nuit. » Alors il faut dire un mot de deux signes avant-coureurs de la parousie. Nous ne pouvons, dans un bref sermon, les évoquer tous, mais parlons au moins des deux principaux, les deux signes qui sont spécialement évoqués par saint Paul dans ses épîtres aux Thessaloniciens. Et l'évangile d'aujourd'hui y a fait quelques allusions. C'est l'apostasie, d'une part, et l'avènement de l'homme d'iniquité, c'est-à-dire l'antéchrist. Saint Paul s'exprime dans ces termes, « Que personne ne vous trompe en aucune façon, car il faut auparavant que vienne l'apostasie et que se révèle l'homme de péché, le fils de perdition. » Alors de quelle apostasie saint Paul veut-il parler? Il ne s'agit pas d'une défection partielle, car il dit de manière absolue l'apostasie, on pourrait presque dire avec un grand A. Il faut donc l'entendre d'une révolte d'ordre religieux et universel. L'apostasie en masse des sociétés chrétiennes qui, socialement et civilement, renieront leur baptême. L'abandon schismatique de l'Église romaine par la société tout entière, la défection des masses et même des clercs, cette défection de la foi véritable en notre Seigneur Jésus-Christ et peut-être même de toute croyance religieuse, en quelque sorte l'athéisme absolu. C'est ça que saint Paul veut dire, très vraisemblablement, d'après les principaux commentateurs. Et d'ailleurs, notre Seigneur n'a-t-il pas prédit Pensez-vous que le Fils de l'homme, à sa venue, quand il reviendra au dernier jour du monde, trouvera la foi sur la terre ? Notre Seigneur ne trouvera plus la foi sur la terre. C'est bien dire que ce sera l'apostasie. Estius, qui est un commentateur de saint Paul, en étudiant ce texte de la deuxième épître aux Thessaloniciens, dit que cette apostasie a commencé en Luther et en Calvin. C'est le point de départ. Ce n'est pas inintéressant de rappeler ça en cette année où on célèbre ce lamentable anniversaire de la révolte de Luther. Cela montre que l'apostasie a bien fait du chemin depuis, un chemin effrayant. Et aujourd'hui, elle tend même à se consommer. Cette apostasie, elle porte le nom de révolution. La révolution, c'est l'insurrection de l'homme contre Dieu, au fond. Elle porte aussi le nom de laïcisme, c'est sa formule. C'est l'élimination de Dieu et de son Christ. Cette apostasie, c'est l'œuvre des sociétés secrètes menées par Satan. Elles n'ont qu'un but, sceller précisément l'apostasie définitive et préparer les voies à l'homme de péché. Alors, contre cet assaut, le père Emmanuel insiste beaucoup sur ce point, il appartient aux chrétiens de réagir. Il est très important de réagir. De toutes les énergies dont nous disposons, il faut travailler, dit le père Emmanuel, dans le sens directement opposé à la franc-maçonnerie. Qu'est-ce à dire ? Eh bien, il faut faire entrer Jésus-Christ dans nos vies privées, dans la vie publique, dans les mœurs, dans les lois, dans l'éducation, dans le métier, autant que nous le pouvons, pour autant que ces choses sont des choses qui sont à notre portée. Notre vie privée, elle, est toujours à notre portée. Il y a longtemps que dans tous ces domaines, sans doute, notre Seigneur n'est plus ce qu'il devrait être, c'est-à-dire tout. Il y a longtemps que règne une demi-apostasie. Eh bien, il faut travailler à ce qu'elle ne devienne pas totale. On peut dire que c'est ça la grande priorité de l'heure présente. Toute la lutte de l'heure présente est concentrée là. Laisserons-nous, oui ou non, nous, les baptisés, se consommer l'apostasie qui amènera à bref délai l'Antéchrist? Nous devons, autant que nous le pouvons, retarder cette heure par nos bonnes œuvres, en faisant régner Jésus-Christ. Et à ce sujet, l'apôtre saint Paul parle, en termes qui pour nous sont énigmatiques, d'un obstacle. Il dit exactement un retenant, si on traduit les choses très littéralement, un retenant, quelque chose qui retient, qui s'oppose à l'apparition de l'homme de péché. Qu'est-ce que c'est que cet obstacle, ce retenant? Les pères de l'Église ont vu presque unanimement dans cet obstacle l'Empire romain. Et ils ont compris que tant que subsisterait l'Empire romain, facteur d'ordre et de civilisation, l'Antéchrist ne paraîtrait pas. Il est évident pour nous, après 20 siècles d'histoire, que ce n'est pas à cela, vraisemblablement, que saint Paul faisait allusion, puisque l'Empire romain, qui d'ailleurs était persécuteur des chrétiens, a disparu depuis longtemps. On peut néanmoins retenir quelque chose de cette idée des auteurs antiques et comprendre, tant qu'un pouvoir chrétien encouragé par Rome, la vraie Rome, la Rome de l'Église catholique romaine, tant donc que ce pouvoir subsistera, ou plus simplement, tant que Rome, tout simplement, la Rome éternelle, sera fidèle à sa mission, l'Antéchrist ne paraîtra pas. Alors, si telle est la bonne interprétation, nous pouvons dire que l'obstacle est en train de sauter sous nos yeux. On pourrait objecter, notre Seigneur a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre son Église. C'est vrai, c'est de foi. Mais le père Allot, un commentateur de l'Apocalypse, écrivait déjà en 1915, donc juste après le pontificat de Saint-Pie X, que l'Église, de bien des manières, pas seulement physique, mais aussi morale, l'Église peut être enfermée aux catacombes, moralement, pas seulement physiquement, et son épanouissement en œuvre extérieure peut être arrêté. En d'autres termes, même si le diable ne peut prévaloir définitivement, si l'Antéchrist ne peut prévaloir définitivement contre l'Église, il peut y avoir tout de même, au moins en apparence, une éclipse de la Sainte Église. Pour terminer, disons aussi un petit mot de l'homme de péché prédit par saint Paul et qui doit suivre cette grande apostasie. Saint Paul dit que cet homme d'iniquité, cet antéchrist, surviendra au terme, enfin, ou du moins au moment le plus fort de cette apostasie. L'avènement de l'homme de péché, dit saint Paul, aura lieu, ce sont ses propres termes, secundum operationem satanae, par la puissance de Satan, dont il est l'instrument docile. Et cette puissance, commente le Père Emmanuel, c'est le mépris de la vérité, l'abus des grâces. L'humanité aura voulu se mettre immonde, eh bien elle l'aura. Et par lui se produira une séduction d'iniquité. Bossuet dit « une efficace d'erreur », c'est comme ça qu'il traduit le terme de saint Paul, « une efficace d'erreur qui punira les hommes d'avoir rejeté et haï la vérité ». Cet homme de perdition, on l'appelle l'antéchrist parce qu'il sera l'antipode exact de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela ne veut pas dire qu'il aura la même puissance, évidemment, ce ne sera qu'une créature, un homme, ne soyons pas manichéens. Au bout du compte, c'est notre Seigneur qui l'emportera. Mais tandis que Jésus-Christ était élevé au-dessus des atteintes du péché, l'antéchrist, lui, se mettra en dehors des atteintes de la grâce par un abandon de tout son être à l'esprit du mal. Jésus-Christ se portait à son Père de tous les élans de sa nature divinisée. Eh bien, l'antéchrist, lui, se portera au mal de tous les élans d'une nature profondément viciée. Il renoncera même à l'espérance. Il sera diamétralement opposé à notre Seigneur Jésus-Christ. Il fera donc des œuvres en opposition directe avec les siennes, y compris de faux miracles et de faux prodiges, capables, s'il était possible, de séduire les élus eux-mêmes, on l'a entendu dans l'évangile d'aujourd'hui. Saint Paul explique même que cet antéchrist établira un nouveau culte, le culte de Satan, jusque dans le temple de Dieu, où régnera, à la place du sacrifice véritable, la Sainte Messe, l'abomination de la désolation. Le terme est emprunté au prophète Daniel, il était noté au tout début de l'évangile que nous avons lu aujourd'hui. Son sens est un petit peu mystérieux, mais on peut comprendre au moins qu'il s'agit là de quelque chose qui est comme l'antithèse de la Sainte Messe, du sacrifice adorable de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Grégoire le Grand prévient qu'il ne faut pas penser que le piège sera grossier. Ce sera, dit-il, comme un éblouissement, un vertige de mensonge, capable de tromper même les meilleurs. Peut-être, sans doute, une sorte de religion universelle, syncrétiste, qui dominera le monde, dont on voit déjà aujourd'hui les prémices. L'antéchrist doit avoir aussi ses précurseurs, ses apôtres, ses prédicateurs, et cela d'ailleurs non seulement dans les temps qui précéderont son avènement, mais tout au cours de l'histoire. On voit bien dans le fil de l'histoire qu'il y a eu déjà bien des préfigurations de l'antéchrist. Et ce point est largement illustré, pardon, par saint Jean, dans son Apocalypse, notamment au chapitre 13e de l'Apocalypse. Saint Jean parle de ces faux apôtres qui se donneront l'apparence de l'agneau. Je vous donne simplement le tout petit commentaire qu'en fait saint Grégoire dans ses Moralia. Ce commentaire est tout à fait d'actualité. Saint Grégoire le Grand dit « Ces missionnaires de l'antéchrist se donneront comme des agents de persuasion respectueux pour les consciences ». C'est exactement le langage qu'on entend aujourd'hui. Leur tactique consistera à proclamer que le genre humain, durant les âges de foi, était plongé dans les ténèbres, et ils salueront l'avènement de l'antéchrist comme l'apparition du jour et le réveil du monde. C'est le langage officiel qu'on entend aujourd'hui, qu'on lit dans tous les journaux, et qu'on entend même à Rome. Saint Grégoire a des mots très forts, très éclairants pour décrire ce temps de l'avènement de l'antéchrist. Il dit encore « L'Église, parvenue au terme de son pèlerinage, sera privée de tout pouvoir temporel. » Ces choses faites depuis Pie IX déjà, presque deux siècles. « On cherchera à lui enlever tout point d'appui sur la terre. » Et il ajoute, et c'est encore plus d'actualité, l'Église sera même dépouillée de l'éclat qui provient des dons surnaturels. Les enseignements de la doctrine se tairont. Les enseignements de la doctrine se tairont. L'Église n'enseignera plus. Les prodiges miraculeux cesseront. Mais quelle sagacité, Saint Grégoire le Grand écrivait au début du 7e siècle. Alors toutes ces considérations que l'Église nous livre pour notre instruction, c'est pour notre instruction, il faut connaître ces choses-là, ne doivent pas nous faire oublier que la voie du salut restera toujours ouverte. Dieu n'abandonnera jamais son Église, ni les âmes, spécialement les âmes humbles qui lui resteront fidèles. Donc la consigne est toujours la même, il faut veiller, prier et garder la foi. Le Père Emmanuel termine son étude par ces mots que je vous lis. Nous pouvons pressentir la crise finale en voyant sourdir et se développer sous nos yeux le plan satanique dont elle sera le couronnement, mais du point où nous en sommes à l'heure de cette crise, que de surprises nous réserve l'avenir. Il ne faut pas se décourager. Que de restaurations du bien sont toujours possibles. Que de progrès du mal possibles aussi, hélas. Que d'alternatives dans la lutte. Que de compensations à côté des pertes. C'est ici qu'il faut reconnaître avec notre Seigneur qu'il appartient au Père seul de disposer les temps et les moments. Alors dans cette incertitude où nous sommes, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, ça tient en deux mots. Nous l'avons déjà dit, veiller et prier. Et prier tout spécialement la Vierge Marie, elle qui a la puissance d'écraser la tête du démon, la tête du serpent infernal, et qui peut nous protéger, nous garder, nous éclairer dans tous ces événements, dans toutes ces heures bien redoutables, mais en même temps bien consolantes, parce qu'elles amèneront l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.